Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement, et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 19e épisode, je voudrais parler du Canada.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Le 28 avril auront lieu les élections fédérales au Canada. Le vote par anticipation a d'ailleurs commencé ce week-end. Le Parti conservateur, qui caracolait en tête avec plus de 25 points d'avance, est maintenant derrière le Parti libéral, qui a repris presque 30 points en 3 mois. Les Canadiens parlent de jamais vu. Qu'en pensez-vous ?
Après 9 ans au pouvoir, Justin Trudeau était devenu très impopulaire. Les impôts, la gestion du Covid-19, la montée de la violence et du crime organisé dans les grandes villes canadiennes, l'emprise de l'État, la multiplicité des sujets woke, tous ces thèmes étaient en train de faire basculer le Canada, un pays traditionnellement plutôt centriste, centre-gauche ou centre-droit, c'était en train de le faire basculer vers une droite populiste. Le leader du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui d'ailleurs est un populiste de droite né dans l'Alberta, s'était aligné sur Donald Trump et espérait l'emporter lors des prochaines élections. Mais les attaques du président américain depuis le début de l'année ont tout changé.
Que voulez-vous dire ?
Dans son discours de politique étrangère à Mar-a-Lago le 7 janvier, Donald Trump s'en est pris au Mexique, à l'Europe et au Canada. C'est d'ailleurs dès le lendemain, le 8 janvier, que les intentions de vote en faveur du Parti libéral ont commencé à frémir.
Vous pourriez nous rappeler ce que sont ces attaques ?
En gros, pour Trump, le Canada ne sert à rien. Il y a trop d'impôts, sa valeur économique est négative, Washington assure la défense du Canada, ce qui leur coûte des centaines de milliards de dollars par an, et en échange, les produits américains font face à des barrières douanières à l'entrée, alors que les produits canadiens, eux, inondent le marché américain. C'est évidemment du grand n'importe quoi, mais c'est pas tout. Il passe son temps à se moquer du Premier ministre, à l'époque Justin Trudeau, en l'appelant « gouverneur Trudeau ». Il propose une annexion pure et simple du Canada aux États-Unis, il en parle régulièrement comme du 51e État, et de plus, son entourage trouve ça très drôle de répéter les mêmes choses. Quand par exemple vous avez une Caroline Leavitt,
l'attachée de presse de la Maison Blanche.
C'est ça, une Caroline Leavitt à peine sortie de l'école et qui se permet de traiter le Premier ministre canadien de gouverneur Trudeau, vous imaginez que cela ne passe pas très bien au nord de la frontière. Du coup, Mark Carney, qui a pris la place de Justin Trudeau en tant que Premier ministre, il est du même parti, le Parti libéral, qui a pris sa place le 14 mars, il a complètement changé le discours et, je pense, utilisé la bonne stratégie. C'est-à-dire que dès son arrivée, il a tapé fort et vite.
Notamment lors de son discours d'investiture.
Exactement. Il a en effet déclaré, je lis, « La vieille relation que nous avions avec les États-Unis basée sur une intégration profonde de nos économies et une coopération étroite en matière de sécurité et de défense est terminée. » Jamais un Premier ministre canadien n'avait osé dire ça.
Alors, que va-t-il se passer ?
Déjà, mon hypothèse, c'est que dans les semaines passées, il y a quand même eu un certain travail de back-channel. Donc, on sait, parce que ça a été annoncé dans la presse, que Trump a eu un appel avec Carney il y a, je crois, une quinzaine de jours. D'ailleurs, Trump, évidemment, puisqu'il faut qu'il s'exprime absolument sur tout, a dit que c'était un très très bon appel, comme toujours. Carney n'a pas exactement dit la même chose. Et puis, les attaques qui avaient déjà diminué quand même un peu avant même le départ de Trudeau, ces attaques se sont calmées. Puis aussi, ça par contre, qui n'a pas été rapporté dans la presse, j'imagine que Pierre Poilievre, donc le candidat conservateur, qui d'un seul coup a vu s'évaporer ses 25 points d'avance juste avec en quelques semaines grâce à Donald Trump, que Pierre Poilievre a dû parler à Trump ou alors à son entourage pour lui rappeler peut-être d'arrêter, parce que si Trump voulait un allié au Canada, c'était pas en continuant les attaques qu'il allait l'avoir. Et que, en gros, il aurait absolument aucune chance de gagner si la Maison-Blanche ne mettait pas un peu d'eau dans son vin.
Mais l'unité canadienne a toujours été un sujet délicat, n'est-ce pas ?
Oui, le Canada est un pays curieux. Il a évidemment une histoire compliquée, que de la découverte de Jacques Cartier en 1534 jusqu'à la guerre de 7 ans au XVIIIe siècle et l'intégration sous la couronne britannique. Mais c'est évidemment un pays qui, historiquement, est assez sensible aux différences d'un territoire absolument immense, hein, le deuxième pays le plus grand en superficie au monde après la Russie, bien plus grand que le territoire américain d'ailleurs. Il y a évidemment une histoire entre les Français, les Anglais et ce que les Canadiens appellent les Premières Nations, c'est-à-dire les Inuits et tous ces peuples qui étaient là avant l'arrivée des Européens. Et le résultat, c'est une confédération de provinces pourvues d'identités distinctes, voire très distinctes. Et on trouve des identités très distinctes, des fois au sein même de provinces. Il y a des petites régions avec une très forte histoire culturelle. Si vous prenez par exemple ce qu'on appelle les maritimes, c'est-à-dire la façade atlantique du Canada, même là, on a des régions à très forte identité. Vous avez l'Acadie, qui est évidemment une grande histoire francophone, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, etc. Et toutes ces régions, ces identités, n'accepteraient jamais de se fondre dans une sorte de gloubi-boulga trumpiste.
Le Québec?
Évidemment. Le Québec, une région de 9 millions d'habitants, dont la superficie d'ailleurs représente 3 fois la France, le Québec a toujours été tenté par l'indépendance. Il y a eu 2 référendums, le premier en 1980, le second en 1995, où d'ailleurs le oui a failli l'emporter. Mais même si les velléités d'indépendance au Québec ont beaucoup baissé depuis une trentaine d'années, ça reste une nation à part entière au sein de la Confédération canadienne. L'autre province qui a pu être tentée ou pourrait être tentée par l'indépendance, c'est évidemment l'Alberta. L'Alberta, c'est le Koweït de l'Amérique du Nord ou alors le Texas du Canada, selon ce que vous préférez, principalement à cause de ses ressources naturelles, énergétiques, notamment pétrolières. Ensuite, vous avez traditionnellement les provinces de l'Ouest, Ouest central, le Saskatchewan, le Manitoba et également l'Alberta, qui sont beaucoup plus à droite, hein, d'une droite américaine, populiste, et dont les valeurs seraient probablement plus alignées avec, disons, le Midwest des États-Unis. Vous avez aussi la Colombie-Britannique, donc complètement à l'ouest du Canada, sur la façade pacifique, qui est coincée entre le Washington et l'Alaska, qui est très proche du modèle écotopien, justement, du nord-ouest des États-Unis, c'est-à-dire le Washington et l'Oregon, qui eux-mêmes ont des valeurs politiques finalement assez proches des Européens et extrêmement éloignées du système de valeurs prôné par l'équipe qui occupe la Maison-Blanche en ce moment. Quant à l'Ontario, la province la plus peuplée avec 16 millions d'habitants et le vrai cœur économique du pays, avec Toronto qui est la capitale économique, en Ontario, ils se sentent dépositaires de la mission de protéger l'intégrité territoriale du Canada contre les velléités indépendantistes du Québec, les critiques des Albertans ou des populistes de droite de l'Ouest, ainsi que, évidemment, contre les appétits du grand voisin du sud de la frontière.
Dans un article récent, vous avez développé une théorie sur un rapprochement entre le Canada et l'Union européenne.
Ouais, disons que j'ai choisi de développer un sujet qui n'était pas le mien. En fait, tout commence le 2 janvier avec un éditorial dans The Economist. Le 7, vous avez les déclarations de Donald Trump dans le cadre de son fameux discours de politique étrangère, si on peut l'appeler ainsi, où il parle d'annexer le Groenland, de rattacher le Canada aux États-Unis, de renommer, ce qu'il a fait d'ailleurs, le golfe du Mexique, golfe d'Amérique, etc. Le 13 mars sort un sondage canadien qui montre que 46% des Canadiens seraient ouverts à l'idée de rejoindre l'Union européenne, avec seulement 29% contre. D'ailleurs, la partie est du Canada, donc surtout Québec et Ontario, est encore plus favorable à cette idée, alors que historiquement, l'ouest du Canada et aussi le Parti conservateur, ils sont quand même plus pro-britanniques et pro-États-Unis. Le Canada est en fait le pays le plus européen des pays non européens. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Mark Carney lors de sa première visite officielle à Paris, puis ensuite à Londres. Hein. Assez clair qu'il a choisi 2 pays européens, évidemment proches de l'histoire du Canada, pour faire sa première visite officielle, et non pas les États-Unis. En fait, si vous regardez tout sur plein de critères, que ce soit l'importance de la religion, le contrôle des armes et donc les lois quant au port d'armes, la peine de mort, l'éducation, la part de l'État-providence dans la société, les charges sociales, et j'en passe. Sur tous ces points, le Canada est bien plus proche de l'Europe que des États-Unis. De plus, Canada et Union européenne se complètent. L'Europe a trop de gens, on a une densité de population énorme, en Europe occidentale surtout, et le Canada n'en a évidemment pas assez, 41 millions d'habitants sur une surface absolument gigantesque, hein, comme je l'ai dit, la deuxième superficie au monde après celle de la Russie. L'Europe a une économie très diversifiée, évidemment, et est intégrée un peu partout dans l'économie mondiale. Il n'y a pas vraiment de région au monde où l'Europe ne commerce pas et n'investit pas, alors que le Canada souffre tout de même, même si l'Europe et l'Union européenne et la Grande-Bretagne sont des partenaires commerciaux importants, l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Canada, le Canada souffre tout de même énormément de sa dépendance économique aux États-Unis. Le Canada pourrait d'autre part procurer une indépendance énergétique et agricole à l'Europe, dont elle a bien besoin, surtout en ce nouveau monde. Et quant à l'indépendance militaire, ça n'est qu'un problème de volonté politique des deux côtés, que ce soit du côté européen ou du côté canadien.
Je voudrais aborder rapidement quelques autres sujets d'une actualité qui n'arrête pas depuis le début de l'année. On pourrait parler de déportation, de l'arrêt de la Cour suprême qui suspend les nouvelles expulsions, de la suspension de la décision sur les droits de douane, de la chute du dollar, de la chute des marchés boursiers, du patron du fisc américain remplacé au bout de 3 jours, des spéculations sur les candidats démocrates, de Gaza, des négociations Iran-USA sur le nucléaire. La liste est infinie. Mais je voudrais parler du conflit Ukraine-Russie. Marco Rubio vient de déclarer que les États-Unis allaient abandonner les efforts de paix en l'absence de progrès dans les jours qui viennent. Au même moment, J.D. Vance déclare à peu près l'inverse, c'est-à-dire qu'il attend des progrès très vite. Et au dernier moment, Vladimir Poutine annonce une trêve de Pâques que personne ne respecte. Vous y comprenez quelque chose ?
Cette histoire de conflit réglé en 24 heures, c'était une vaste blague. En dévoilant ses cartes à l'avance, Trump, le fameux négociateur, s'est mis dans une position de négociation impossible. Trump était prêt à sacrifier l'Ukraine, reconnaître la Crimée, reconnaître l'annexion des 4 provinces du Donbass, accepter sûrement en partie une démilitarisation de l'Ukraine, qui sait accepter, mais comment s'y serait-il pris qu'on remplace Zelensky ? Tout ça uniquement pour pouvoir ensuite clamer sa victoire, enfoncer Biden et prétendre à obtenir le prix Nobel de la paix. Le problème, c'est que Poutine, même s'il avait toutes les cartes en main, grâce à Trump, Poutine a été trop gourmand. Donc il aurait pu saisir sa chance il y a quelques semaines, il n'a pas saisi, il s'est dit « je vais obtenir plus ». Maintenant, ça commence à capoter. L'administration américaine a pourtant tout fait pour humilier les Européens. Les écarter des discussions, laisser filtrer les plans de paix qui impliqueraient en fait le financement par les Européens d'une solution à laquelle ils n'auraient pas été autorisés à participer. Et par exemple, l'administration Trump est même allée voir les Européens récemment afin de les pousser, essayer de leur forcer la main pour qu'ils réacceptent les Russes au sein du système SWIFT.
Le système de paiement international essentiel pour le commerce et les services.
C'est ça. Et heureusement, pour une fois, les Européens ne s'en sont pas laissés faire. Parce qu'en fait, la gestion de SWIFT, c'est basé à Bruxelles. Or, Poutine a beau jouer son jeu de poker menteur, la levée des sanctions et la fin de la guerre reste essentielle pour lui. L'économie russe, elle ne peut pas tenir encore de nombreuses années comme ça, avec ce rythme de dépenses militaires et aussi le nombre des pertes, qu'elles soient humaines et en matériel. Donc, cette histoire, elle est loin d'être finie. Dès que les Américains déserteront la table des négociations, parce que Trump a absolument zéro patience, hein, il est incapable de mener une négociation sur le long terme, eh bien Poutine cédera sur quelque chose et leur donnera en fait une petite garantie de façon à les réinviter à la table de négociation. C'est d'ailleurs pour ça, et uniquement pour ça, qu'il a décrété une trêve de Pâques le lendemain des déclarations contradictoires de Marco Rubio et J.D. Vance. Au final, il y aura sûrement une rencontre Poutine-Trump cette année. Le deal mettra des mois à se mettre en place, les Européens et les Ukrainiens le refuseront probablement, Trump sera furieux, il menacera l'Europe de représailles, de façon à leur forcer la main, hein, probablement qu'il les menacera de quitter l'OTAN ou d'augmenter les droits de douane, je ne sais pas moi, à 100%. Et finalement, le deal finira par être annoncé. Et dès que les parties entreront dans les détails, il capotera à nouveau. Puis, ils retourneront à la table des négociations. Et même si la paix arrive, elle ne durera pas longtemps. Poutine ouvrira des nouveaux fronts. Son but a toujours été clair. Faire que les États-Unis lâchent l'Europe. Et c'est sûr qu'avec Trump, il a une opportunité unique. Puis, ce qu'il veut, c'est grignoter toute l'ancienne zone d'influence soviétique, et cela tout en neutralisant l'Europe de l'Ouest. Donc on en a pour au minimum 10 à 20 ans d'antagonisme avec la Russie. Si l'équipe Trump a entièrement raison de critiquer l'Europe qui a abandonné ses efforts de défense pendant 30 ans, alors que un peu partout se multipliaient les ennemis, leur vision géopolitique est tirée d'un mauvais film de Flash Gordon. On ne doit donc compter que sur nous-mêmes. Pour cela, il faut reconstruire une industrie de défense le plus vite possible. C'est la seule chose qui compte. On ne pourra pas dire que nous ne sommes pas prévenus.
Et la visite de Giorgia Meloni à Washington ?
Giorgia Meloni, la première ministre italienne, c'est l'Europe acceptable à la Maison-Blanche. C'est d'ailleurs la seule intersection entre les Européens et l'administration Trump aujourd'hui. D'accord, Trump et Macron, Trump et Starmer peuvent faire des sourires aux caméras, mais ils ne s'entendront jamais. Donc Meloni est la seule capable de jouer les intermédiaires. Comme Trump est sous pression de la part de ses alliés, vu le chaos économique que ses droits de douane et ses déclarations intempestives ont déclenché, il va essayer de sauver la face en signant des accords bilatéraux. Royaume-Uni, probablement, c'est plus simple, et peut-être, qui sait, une nouvelle négociation avec l'Union européenne. Et dans tout ça, Meloni a probablement un rôle à jouer.
Et le Canada, très vite ?
Deux scénarios, et ceci à la condition que Mark Carney, le Premier ministre, gagne les élections le 28 avril. Le plus probable, ce serait un rapprochement sur le plan géopolitique, militaire, et surtout un accord de libre-échange économique, d'abord avec l'Union européenne, puis peut-être avec le Royaume-Uni. Le scénario le plus osé, mais qui serait un coût énorme, ça serait le dépôt d'une demande d'adhésion à l'Union européenne.
Ça vous semble possible ?
Une adhésion, non, en tout cas pas dans un futur proche, mais une demande d'adhésion, pourquoi pas ?
Ce serait incroyable.
L'incroyable est le nouveau normal ?